Adieu veaux, vaches, cochons, poussins, coqs, aubergines, courgettes, oh, pommes de terre, blé, orge,
panique. Panique
au village.
Radio.esperanza.be.
Et oui, ils sont de plus en plus nombreux à délaisser la folle vie consommatrice en ville ou à la campagne pour vivre en accord avec leurs convictions et leur environnement. Alors, dans ce besoin d'enverdir les esprits et les estomacs, ils sont motivés par un respect et un besoin de changer ensemble, de vider les étalages des supermarchés et trouver ce modèle pour donc vivre simplement, respectueux des producteurs, des mangeurs et de la terre. Entre gazap, agriculture à cheval ou friche urbaine, on va tenter ici de dresser le portrait de ce monde en transition, en compagnie avec plein de charmants personnages venus tout droit du village des possibles. C'est ici, sur le site d'Esperanza. Et ils sont par exemple avec nous, Hugo et Théodore de Smart Mush. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a Abdel du collectif Actif.
Oui, bonjour.
Il y a aussi Anne-Catherine qui nous vient des BAP, les Brigades d'Action Paysanne.
Bonjour.
Elisabeth Marielle, compagnon de la Terre.
Bonjour Radio Esperanza.
Et Clément et Margot qui présentent Rencontre des Continents.
Salut.
Salut à tous.
Et on a Anissa qui vient du réseau consommateurs responsables.
Bonjour à tous.
Voilà, alors c'est plein de jolis mots déjà dans tous ces acronymes, contractions et collectifs divers et variés. On va peut-être parler tout de suite plus concrètement de tout ce dont tout ce que vous faites ici. Mais avant ça, mettons-nous un peu dans l'ambiance avec un morceau de musique. C'est Martine Leduc, Je me tire à la campagne.
Je suis Xavier Ancio, je suis maraîcher à Neuville-les-Bois et je travaille avec Billy depuis ma troisième année. Mon métier en fait de maraîcher est venu avec le cheval, c'est le cheval qui m'a amené au maraîchage.
Donc c'est Billy, hein,
Allez, j'ai dit Billy, il avance. Oh, oh Bill. Billy, il a 8 ans, comme il est là, il est dans la force de l'âge. Il a débardé dans les Ardennes, malgré que ce soit un Brabançon. Donc c'est un cheval il est très grand, il fait 1m80 au garrot. Il pèse, à mon avis, là, il est pas loin de la tonne.
Billy.
Hey.
Les petits pois, il aime bien les petits pois. Les petits pois, c'est les protéagineux, donc ça lui donne de l'énergie. Vailleux. Vailleux. Oh. J'ai deux parcelles, j'ai 30 arts de légumes ici à Noville, puis 20 arts de légumes à Fortville, et puis à Amptine, là où j'habite, un peu plus d'un hectare de prairies. C'est toutes des parcelles que j'ai récupérées à gauche, à droite, comme ça. Ici, ces 30 arts, ça appartient au CPS de la commune de Fernelmont. L'autre côté, c'est une petite dame qui me les loue gratuitement. Les 65 arts, le verger, ça c'est mon voisin qui me le met à disposition du moment que je taille les haies. Et alors, il n'y a que la dernière parcelle que j'ai louée à un fermier que là, je dois payer 250 euros pour le demi-hectare, je pense, de prairies. Donc, s'il y a des maraîchers qui entendent ça, ou des futurs maraîchers, je leur dirais, quand vous cherchez des terres, n'allez pas voir chez les fermiers, allez voir chez les autres. Parce que les fermiers, ils utilisent les terres. Par contre, il y en a d'autres qui ont des terres qui ne les utilisent pas. Quoi, donc, c'est par là qu'il faut commencer. Et petit à petit, après, il faut grignoter sur l'agriculture chimique.
Voilà, on vient d'écouter donc un extrait du documentaire « À la santé de la terre » réalisé par Charlotte Laloire qui présente le travail d'agriculteurs qui ont décidé de se déséquiper de tracteurs pour travailler plutôt avec des chevaux, histoire d'un peu se mettre donc dans ce thème de l'alimentation alternative. Ici, donc on entend le fermier qui se lance, etc. On va peut-être commencer donc par ce tour de table où vous pouvez chacun présenter ce qui se cache derrière ces noms qu'on vient de citer là tout à l'heure. Eh bien, on peut peut-être commencer avec vous, Hugo Itaudor de Smart Mush. Alors, c'est quoi Smart Mush ?
Smart Mush, on dit que c'est une champignonnière éco-pédagogique. On dit éco-pédagogique parce que déjà, on est une champignonnière, on produit des champignons. On a commencé l'année passée, ça s'est vachement bien développé. On a 6-7 espèces, et on fait varier un peu. On apprend toujours, mais on fait varier un peu les espèces en fonction des saisons et du moment de l'année. Quoi. Et pédagogique, parce que le but, c'est pas seulement de produire, n'est pas seulement de produire des champignons, c'est aussi de réapprendre aux gens à les cultiver et qu'ils se réapproprient cette culture.
Et ça se passe comment, là ?
Alors,
En deux mots,
ça se passe comment, la culture ou... mm-hmm. Ouais. Là, alors, les champignons, finalement, ça mange. C'est beaucoup plus proche d'un animal que d'un végétal. Ça, on a tendance à l'oublier. En fait, c'est un règne à part entière. Et il faut lui donner à manger. C'est aux champignons que nous, on cultive. Et on peut leur donner à manger du bois, donc de la scierie de bois. On récupère, nous, de la scierie d'une scierie à côté de la champignonnière. Et sinon, de la paille. Et aussi, on peut faire des champignonnières en extérieur directement... dans des bûches.
D'accord. Et donc ça, c'est un moyen simple de soi-même faire sa propre nourriture.
Quoi. Tout à fait.
Enfin, récolter, élever sa propre nourriture.
Le pleurote, en soi, c'est un champignon qui se trouve sur le marché, qui est assez luxueux, on va dire. Il est super simple à faire pousser. Avec un
comme on voit dans les box, en fait, qu'on peut acheter maintenant dans pas mal de magasins bio, etc.
Ouais, et encore plus simple que ça, je pense.
Ouais.
On peut vraiment s'amuser juste avec le mycélium. Mm-hmm. C'est l'ensemencement du champignon. Et on peut juste mettre ça dans du carton, du marc du café, et faire pousser ça chez soi très simplement.
Ok. Donc ça, c'est une alternative pour pouvoir soi-même faire son manger. Ici, on a Abdel qui est dans Collect Actif. C'est plus dans la récupération, donc c'est éviter le gaspillage. Plutôt que de se faire soi-même de la nourriture gratuite, on va plutôt aller en chercher directement, c'est ça ?
Oui, exactement. Pour un petit peu parler du Collect Actif, c'est un projet, en fait, et c'est un micro qui peut faire.
Ouais.
Donc c'est un projet qui est né en 2013. En fait, c'est un projet initié par des personnes sans papiers. Et c'est des sans papiers qui découlent d'un collectif militant qui s'appelait à l'époque SP Belgique. Au bout d'un parcours qui n'a pas vraiment abouti, donc c'était un peu le. Voilà. Donc il fallait un peu rebondir sur une autre thématique. Donc on a réfléchi avec eux, et donc on a mis en place ce projet collectif. Donc le principe est très simple, c'est que comment utiliser la problématique du gaspillage comme étant une solution par rapport à la question de la précarité alimentaire. Et comment aussi, en tant que migrant, justement porter un autre message beaucoup plus positif qu'une revendication qui était face à un mur. Donc voilà, donc au lieu de venir avec des revendications, on vient avec une solution par rapport à un problème particulier. Et aussi, donc on a démarré en 2013. Donc c'est tout simplement récupérer chez les marchands, aux abattoirs. qui nous ont beaucoup aidés au début. Donc voilà, donc, pour donner une idée, en une semaine, on récupérait 1,5 tonnes de fruits et légumes.
D'accord, ouais. Incroyable.
Oui.
On va continuer peut-être. Et...
oui, donc on a avec Anne-Catherine qui est du BAP, Brigade d'Action Paysanne. Donc nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites justement.
Ok, ben donc en fait, les brigades d'action paysanne, c'est des gens comme vous et moi qui décidons de soutenir l'agriculture paysanne parce que ben on a tous droit à une alimentation bonne et à l'heure actuelle.
Alors, on va faire des petites pauses de temps en temps quand on discute pour des auditeurs qui seraient peut-être pas trop au fait de termes qu'on utilise ici, parce que par exemple là j'entends agriculture paysanne, je pense que c'est un des grands mots clés dans les discussions qu'on va avoir ici. Est-ce que tu peux nous expliquer avant de continuer ce que ça veut dire?
Bah, l'agriculture paysanne c'est un modèle d'agriculture qui est plutôt basé sur la transition écologique. Là du coup il va falloir que j'explique aussi ce que c'est la transition. Et donc, la transition écologique, ben, ici, enfin, on n'est pas sans savoir que la planète vit une période pas évidente.
Ce n'est pas un coup des Chinois.
Non, ce n'est pas un coup des Chinois. Désolé, Donald. Ça existe. On fait face à un changement climatique. Donc, il faut changer la manière dont on consomme, dont on vit. Et la transition écologique, c'est ça. C'est... choisir, faire des choix pour plus de résilience, faire des choix plus écologiques dans tous les domaines possibles. Le fondement de la transition écologique, c'est plutôt du bottom-up, quoi. Ça parle du local pour aller au global.
Du bas vers le haut.
Voilà, exactement. Parce que bon, je dis transition écologique, mais bon, on a beaucoup parlé de développement durable aussi. Et là, normalement, c'est plutôt du haut vers le bas. Mais bon, pour le moment, on a un peu l'impression que le haut, il oublie un peu tout ça. Donc, parlons transition écologique. Et l'agriculture paysanne, c'est vraiment ça. On retourne au bas, on fait des choix plus écologiques. Dans l'extrait que tu as écouté. Ben c'est ça, c'est retour à une agriculture avec des animaux parfois, mais bon, le fermier il fait aussi, enfin le paysan, il peut aussi utiliser des machines, c'est pas utiliser des pesticides chimiques.
Et on va en parler bien sûr.
Voilà, c'est défendre un modèle plus d'agriculture familiale aussi, des plus petites exploitations. On peut parler d'agroécologie, de permaculture, enfin c'est... Voilà.
On va essayer d'un peu définir tous ces termes au long de cette émission. Et donc les brigades d'action paysanne...
Et donc les brigades d'action paysanne, c'est des gens, des citoyens qui décident, qui veulent mettre les mains dans la terre et participer, aller aider ces producteurs, ces maraîchers, ces éleveurs, pour les aider dans leur travail.
Super.
Voilà.
Vite question comme ça, toi t'es plutôt citadine alors?
Ouais, mon profil est un peu compliqué. Moi, je viens de la campagne. Mon grand-père était agriculteur, mais j'habite en ville pour des soucis de boulot. Mais j'aime bien aller faire du bénévolat pour les brigades d'action paysanne. Et en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un coup de main pour l'éleveur, le producteur, le maraîcher, mais c'est aussi une surface de mobilisation pour des causes en lien avec la souveraineté alimentaire, la transition et tout ça, tout ça.
Super, voilà pour les BAP. On continue avec les compagnons de la Terre, Elisabeth et Marielle. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes amis de la Terre?
Alors, on n'est pas les amis de la Terre, même si on aime beaucoup la Terre. Donc, on se différencie. En fait, c'est une initiative très concrète. Donc, en gros, c'est une coopérative à finalité sociale, une coopérative citoyenne. Donc là, pour l'instant, c'est 500 coopérateurs qui ont investi dans cette coopérative pour se réapproprier leur alimentation. Donc, le principe, c'est du maraîchage au départ, mais après, de la transformation alimentaire. Donc, on fera du pain, on fera du beurre, on fera des céréales transformées. Et donc, ce qui va permettre aussi de développer toute une filière, finalement.
De la production jusqu'à la bouche, quoi.
Oui, plus ou moins. Voilà, donc ça fait partie de la dynamique ceinture alimentaire liégeoise, dont le but est de créer une filière d'alimentation durable à Liège. Et il y a beaucoup d'initiatives, dont celle des Compagnons de la Terre.
Super. Eh bien, on viendra évidemment là-dessus.
Alors, donc ici, on a aussi Clément et Margot, qui sont de Rencontre des Continents. Donc, expliquez-nous un peu quel continent on va rencontrer avec vous.
Ben, on espère tous. Mais donc voilà, en fait, on est une ASBL d'éducation permanente. Et on est situé à Ixelles, donc à Bruxelles, à la Maison de la Paix, qui regroupe plein d'autres associations avec qui on est en lien, évidemment, aussi. Et sinon, en pratique, c'est un collectif de 5 permanents et d'une cinquantaine de bénévoles qui, donc en gros, travaillent dans des sortes de petits cercles qui se répartissent différentes activités qui sont principalement de la formation, des animations ponctuelles et en espace de sensibilisation. Bah, par exemple, on est présent ici à Esperanza et alors aussi de mise en réseau et d'accompagnement. Et donc voilà, nous, ce qu'on considère, c'est que la thématique de l'alimentation durable est une bonne porte d'entrée pour justement réfléchir à d'autres thématiques plus larges, mondiales par exemple, par rapport à la diversité, la santé, l'environnement, etc.
Donc partir de la nourriture pour après voir l'image plus large.
Exactement. Et alors, voilà.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
Exactement. Entre autres. Hein. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de développer un esprit critique par rapport aux défis du monde, d'avoir une approche systémique et de chercher justement des alternatives.
Alors, je vais refaire un petit bip.
Ah, ouais.
Approche systémique.
Je pense que...
C'est un bon test pour notre volontaire.
Ouais, c'est...
Clément.
On m'exploite. une approche systémique. Je dirais que, que c'est quand même un peu dans le mot, donc système, c'est de voir dans l'ensemble de manière plus globale et de ne pas s'arrêter justement à une problématique en particulier, de se dire qu'elles sont toutes liées en fait.
Et que pour... Tu viens de parler en fait, on parle de nourriture, mais en fait on parle de tout le système de consommation.
Voilà, c'est j'espère...
Et au-delà.
Mais... J'espère
tout est lié, tout est interdépendant. Ouais. C'est pas A est égal B, mais A... C'est beaucoup plus complexe que ça et parler de la complexité, c'est ce qu'on essaye de faire avec toutes les personnes qu'on rencontre. Voilà.
Super. Et maintenant, donc, on continue avec les voix suaves et Anissa du réseau consommateurs responsables. Donc ici, on était dans les producteurs, on est un peu passé du côté consommateur, des gens qui s'occupent de tout, etc. Vous êtes donc plus centré sur les consommateurs, les mangeurs ?
On est plus centré sur les citoyens.
Et donc, citoyens.
Ce que nous, on fait, c'est d'accompagner, de représenter ou de visibiliser des collectifs de citoyens qui ont choisi de proposer une alternative à la consommation.
Comme tous les gens ici autour de la table, un peu.
Comme tous les gens ici autour de la table. Et pas que de la consommation alimentaire, puisqu'on accompagne les hypercafés, les donneries, les réseaux d'échange et de savoir, les services d'échange locaux, les potagers collectifs aussi, et... J'en oublie toujours un, les groupes d'achat alimentaire. Avec ça, comme particularité, qu'on vise vraiment l'autogestion et la souveraineté, parce qu'on l'a déjà dit, je ne vais pas devoir le répéter, hein. Des groupes à eux-mêmes créer leurs projets, mais on les accompagne, donc on aide à la création en 3 ou 4 rencontres, avec le souci que... ils restent maîtres de leur projet. Et donc, qu'ils ne soient pas repris par une institution ou s'il y a une collaboration avec une institution ou un pouvoir public, qu'en tout cas, ils restent maîtres de leurs idées, de leurs projets. Et donc, pour ça, on utilise beaucoup d'outils d'intelligence collective. Est-ce qu'il faut que j'explique, du coup ?
Bah oui.
Ce sont des techniques, alors je vais en dire plein de gros mots comme sociocratie ou holacratie, mais il y en a encore des tas d'autres. Mais globalement, ce sont des techniques qui font en sorte que chacun trouve sa place et sa voix dans une décision, dans un processus de création d'un projet, y compris les minorités. Donc à la différence du est-ce que mainstream je peux utiliser ou il faut que je parle en français en plus ? À la différence du courant dominant, dominant où on vote, la majorité l'emporte et basta, c'est embarqué et on oublie les minorités. Ici, on va vraiment intégrer la parole de la minorité et elle va ajouter la nuance, le relief et la force de la décision.
Et puis aussi, proposer des moyens de fonctionner en collectif.
C'est ça.
Parce que c'est souvent un peu
ouais.
Un des problèmes de citoyens, c'est vraiment un désastre ces micros. Mais c'est pas grave, on va s'en occuper, il y a une musique qui va passer tout de suite et on va s'occuper de ça. Et donc oui.
Oui, c'est effectivement un des problèmes à partir du moment où on commence à collaborer avec d'autres personnes, c'est qu'il faut et à la fois qu'il y ait une efficacité, mais à la fois que tout le monde soit entendu. Et donc, entre ces deux énergies, où on a des fois envie d'aller plus vite et d'oublier ceux qui diraient autre chose, ici on essaie vraiment de et être efficace. Et ça peut être vraiment confondant comme efficacité, les outils d'intelligence collective, et à la fois de pouvoir entendre tout le monde.
Super. Voilà. Et puis, pour terminer, on a un petit retardateur qui est en assemblée générale, on m'a dit, qui arrive ici tout de suite. Alors, on est toujours dans ces assemblées de citoyens qui nous parlent de leur travail pour changer le monde un peu, hein. Copéco, c'est Fabien.
Fabien. Voilà.
Alors, Copéco, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, Copéco, donc, c'est une coopérative de plus ou moins 350 personnes. Notre but, c'est de créer un supermarché. Un supermarché qui va être notre supermarché. Donc, ce ne sont pas des clients, mais sont bien les propriétaires et les coopérateurs. Donc.
Ils ont plutôt un supermarché.
Un supermarché, exactement. C'est exactement ça. Coopératif, bien sûr, collaboratif. On travaille ensemble pour mener à bien ce projet. Donc, on est répartis en plusieurs caddies, comme on appelle ça, c'est-à-dire que ce sont, y a différents thèmes, il y a la comptabilité, il y a tout ce qui est communication, plus administratif aussi. Et donc, les personnes, lorsqu'elles viennent, elles viennent chez nous pour s'inscrire, choisissent pour une durée, comme elles le désirent, en fait, un caddie dans lequel elles vont le mieux se sentir. Elles vont s'investir dedans, et puis au fur et à mesure du temps, si elles ont envie d'aller dans un caddie dans lequel elles seront peut-être moins adaptées parce qu'elles ont moins de compétences, mais en tout cas, elles vont acquérir cette compétence grâce aux autres. Et donc, il y a une certaine forme d'apprentissage, ouais, en fait, qui se fait grâce au groupe également.
Un modèle coopératif, évidemment, très intéressant. Et voilà, vous pourrez en parler aussi ici dans cette table ronde qu'on va tenir ici jusqu'à 16h, hein, n'est-ce pas ? On a déjà passé une demi-heure. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après Richie Havens avec Maggie's Farm, une chanson qui raconte un peu l'exode rural, hein, pour voir un peu ce qui a été déconstruit et ce qu'on doit reconstruire maintenant.
Is a maid out of brick, and the National Guard stands outside his door. I ain't gonna work for Maggie's Pa no more, no more. Well, I ain't gonna work for Maggie's Ma no more, no more. Said I ain't gonna work for Maggie's Ma no more. The brain behind Pa, she's 69, say she's 54. Well, I ain't gonna work on Maggie's farm no more, no more. Well, I ain't gonna work for Maggie's farm no more, no more, no more.
I try my best to be just like I am. And everybody wants me to be just like them. They say smile while you're saving, I get bored. Well, I ain't gonna work, ain't gonna work, ain't gonna work on Maggie's farm. No more, 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 ain't gonna work, no more, ain't gonna work, no more, ain't gonna work, no more, no more, no more, no more, no
Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Esperanza, c'est propre.
On peut dire ce qu'on veut et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.
Parce qu'il y a quelque chose de politique quand même, un peu, dans faire ce métier. C'est pas juste la nature, en tout cas pour moi. Le métier que je faisais avant. On travaillait à amener l'art là où il n'arrivait pas, amener la culture là où elle n'arrivait pas, en dehors des musées, etc. Et permettre aux gens qui n'avaient pas accès à ce moyen de pouvoir d'expression de se l'approprier. Et pouvoir s'en servir pour être acteur et pas seulement récepteur de la des médias de masse, etc. Ben, c'est pareil dans l'alimentation, en fait. On est récepteur de merde qu'on nous donne, voilà, d'industrie qui ne respecte ni les gens, ni les animaux, ni la terre, et qui et surtout pas les clients. Enfin. Et se réapproprier le pouvoir sur l'alimentation. Moi, c'est ça parce que voilà, c'est mon, j'ai envie de le faire, mais on peut se réapproprier des moyens d'expression, on peut se réapproprier les moyens de décision, on peut se réapproprier la manière de produire son énergie. C'est dur parce que c'est physique, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail. C'est un métier très prenant aussi dans ta vie. Mais je dirais pas dur parce que c'est très gratifiant. On est dehors, on est proche de la nature. Ça travaille d'observation. Enfin, ça travaille, voilà, où on a un rythme particulier aussi. Et je trouve que c'est moins dur que les heures que j'ai vu passer dans des bureaux à une certaine période. Tu vis pas richement, quoi. Mais en même temps, ben voilà, tu produis ta nourriture. Si tu compares au nombre d'heures de travail, c'est sûrement ridicule, mais les compensations que j'ai par le fait que j'aime ce travail et que en plus, ben, je peux gagner des sous avec, ça va, quoi. Je veux dire, je gagne quand même mi-temps alors que je travaille plus d'un temps plein, quoi. Mais ça me va.
On est donc ici toujours avec un extrait de « À la santé de la terre sur l'agriculture à cheval ». C'était ici donc une jeune agricultrice qui s'installe et qui raconte un peu voilà, ses difficultés et puis aussi sa motivation, ce pourquoi ils ont fait. Alors, je pense qu'ici, ben, autour de la table, on est tous voilà, actifs dans quelque chose qui n'est pas forcément de la société de consommation en règle générale, voire mais peut-être que ça s'inscrit quand même là-dedans, etc. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous a motivé au départ de vous lancer dans ce genre de boulot, parce que voilà, il y en a autour de la table qui vivent de ces ASBL, de ces choses-là, et notamment, enfin, on parlait un peu certains qui voudraient même s'installer comme agriculteurs, comme paysans. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir là-dessus.
Donc pour les compagnons de la Terre, Marielle, personnellement, à cette table, je suis la plus jeune, je pense, j'ai 21 ans. Et moi, ce qui m'a motivée, c'est de me dire qu'il y avait beaucoup de choses autour de moi qui me semblait ne pas aller au niveau de l'alimentation, beaucoup de gaspillage, des problèmes de santé liés à l'obésité, et puis la question environnementale qui était présente. Et puis, moi, j'ai vu le documentaire demain. Ça a été un déclic pour pas mal de monde, mais maintenant, il y avait une conscientisation qui était là avant aussi. Mais c'est vraiment de me dire... avant, je me sentais un peu seul, entre guillemets, on se dit qu'on est seul, etc. Puis c'était de voir qu'il y avait en fait beaucoup de groupes qui existaient déjà, et donc c'était aller à la rencontre en fait de ces groupes-là. Et j'ai rencontré les Compagnons de la Terre qui justement étaient dans cette envie de produire une meilleure alimentation avec des légumes produits localement et en respect de la nature et du producteur, parce que c'est important aussi. Et donc de voir qu'il y avait des collectifs qui prenaient part à ces changements-là, ben je trouvais que c'était important de s'investir, en fait, tout simplement.
Chouette. Et donc d'autres personnes, bah par exemple justement le cas des migrants sans papier, enfin je ne sais pas exactement comment vous vous définissez, mais donc d'avoir cette notion d'engagement et de proposer, peut-être aussi là ça s'inscrit peut-être aussi dans un changement d'image, de la perception d'un groupe de personnes.
Non, ce n'est pas une question d'image, c'est une question de place, je pense, par rapport à la question des migrants. Je dois me rapprocher du micro encore une fois. Non, c'est beaucoup plus au-delà de la question d'image, en fait, c'est une question de place dans la société, justement, et une question d'engagement. En fait, mon engagement personnel, c'est fait par accident. Enfin, c'était pour répondre à un besoin particulier à un moment donné. C'est en cours de route qu'on s'est rendu compte, justement, de l'importance de ce qu'on faisait, de l'importance de ce qu'on consomme, justement, comme étant une action. Et voilà, donc c'était une découverte avec le temps. Et voilà, aussi on était aussi confronté à ça sur le terrain, parce qu'on voyait un peu les quantités énormes qui étaient au niveau des abattoirs, parce que récupérer 1,5 tonnes chez 5 marchands, je vous laisse un peu imaginer tout ce qui est gaspillé, parce qu'il y a 100 de marchands au niveau du marché. Donc voilà, donc c'est une prise de conscience qui est venue avec le temps et avec la pratique.
Chouette. Les brigades d'action paysanne ont quelque chose à ajouter?
Personnellement, j'ai toujours eu envie un peu de changer le monde. Du coup, je me suis investie dans pas mal de choses différentes, sur des sujets assez différents. Mais ces dernières années, c'est vraiment, vraiment la transition, la consommation responsable, la défense de l'environnement qui prennent vraiment la majorité de mon temps, je dirais. Et donc, du coup, j'étais déjà sensibilisée. Je connaissais, parce que les brigades, à la base, c'est FIAN et Quinoa. Mmh. Qui sont deux ONG, et je connaissais les deux, j'aimais bien ce qu'elles faisaient, et j'ai vu les brigades qui sont nées en fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois d'avril, au mois de mars, et je me suis dit c'est génial, c'est vraiment aller à la rencontre des gens, c'est un mouvement collaboratif qui fait de la mobilisation mais qui aussi travaille la terre, donc on retrouve quelque chose de très terre à terre, on voit d'où vient sa nourriture, etc. Donc du coup je me suis dit c'est exactement ce qui me correspond, et c'est quelque chose de très important d'avoir un retour de voir exactement d'où ça vient, parce que souvent dans la grande distribution le consommateur il sait même plus que sa viande en fait elle vient d'un animal qui a été dans les champs, le lait ça vient aussi d'une vache, les légumes les gens font pas nécessairement attention d'où ils viennent, alors que consommer local c'est quand même super important, et de saison. Et on a l'habitude d'avoir des courgettes toute l'année et des aubergines, alors que non. Donc c'est vraiment avoir une conscience de sa consommation, quoi. Et d'aider aussi l'agriculteur, quoi. Je trouve que ça marie les deux et c'est super important.
Donc cette forme d'engagement dans la nourriture, parce que c'est... moi ce que je trouve intéressant ici dans cette forme d'engagement, et que j'ai l'impression un peu dont vous faites tous partie, c'est-à-dire que c'est une sorte d'engagement qui est du militantisme soft, je dirais, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est très engagé, ce que vous proposez, etc. C'est vraiment, ça remet complètement en question la manière dont la société fonctionne, etc. Mais en proposant une alternative, des alternatives faisables. Enfin, en tout cas, en essayant de chercher ces alternatives pour, ensemble, pouvoir les mettre en place, etc. Peut-être qu'il y en a qui ont, par exemple, comment est-ce qu'on, justement, fait en sorte que le projet soit un peu viable et que le projet puisse, peut-être que ici on pourra un peu parler, enfin voilà, en règle générale sur les projets, mais de créer des projets qui... Où est-ce que je voulais en venir ? Non. De créer des projets qui conviennent en fait aux mangeurs d'une certaine manière aussi et qui ne soient pas non plus trop radicaux pour rester accessibles et pour rester des projets qu'on peut mettre en place. Je ne sais pas si... Voilà, c'est... Toi, tu veux... Oui, voilà.
Copéco, Fabien.
Oui, donc nous, en fait, ce qu'on propose pour dire que ce soit accessible, c'est de garder le prix d'achat donc, du fournisseur, qu'on majore uniquement de 15%. Et donc, les coopérateurs, comme ils ont ce prix plus avantageux par rapport au reste, enfin, voilà, aux personnes autres que Copéco, je veux dire, la plus-value, elle est apportée par le temps de travail qu'ils vont apporter à la coopérative, donc à leur engagement. Et c'est-à-dire que 3 heures, on leur demande, enfin, la coopérative, dans ses règles, demande que... Dans ses statuts, c'est mieux, c'est plus ça. demande aux coopérateurs de prester, 3 heures, soit à prester au magasin, par exemple, pour la permanence, ou à faire évoluer le projet d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà, c'est ce qui permet d'avoir cette plus-value au produit. Et nous, grâce à ça, on demande jusque 15% de supplément pour faire tourner simplement la coopérative, mais dire d'avoir un bas de laine, une protection, voilà, pour non seulement le loyer du magasin et faire tourner pour l'électricité, quoi.
Puis il y a toujours besoin d'employés, j'imagine.
Même pas ici, en tout cas, chez Copéco, pas encore. On est 350 et c'est vraiment tout le monde qui prend en charge les différentes actions pour faire tourner le magasin et les commandes, enfin tout ce qui va autour, quoi.
Et donc, c'est coopératif, tous les coopérateurs sont au même niveau.
Au même niveau, bien sûr. Donc, ce qu'on a, ce sont des chefs de caddie, entre guillemets. C'est pas vraiment des chefs, c'est plus des organisateurs, on va dire, qui organisent les réunions, c'est leur job aussi, ça fait partie de leurs 3 heures, quoi. Et voilà, c'est plus des personnes qui vont permettre de rassembler toutes les informations, de faire avancer les projets par thème, quoi. Copéco, en fait, se trouve sur Charleroi, parce que je ne l'ai pas dit. Oui. Et il y a une alternative également sur Bruxelles qui s'appelle le Biscope. Voilà,
et qui sont un peu sur le même modèle.
Exactement. Voilà.
Au fur et à mesure que le temps a passé, je me suis mieux rendu compte de tout ce qui me manquait comme tradition paysanne, parce que moi, je ne viens pas de ce milieu-là. Donc, on n'apprend pas vite, quoi. Il y a chaque fois des situations différentes, des années qui se présentent autrement, avec le temps, le climat. Au début, que je commençais la ferme, j'étais bien plus sûr de moi qu'après 20 ans de ferme, hein, parce que je ne me rendais pas compte de tous les risques et tout. Alors, finalement, après un certain temps, il y a des choses qui sont où j'ai maîtrisé, hein. Mais au départ, j'étais dans ma tête heureux de faire ce que je voulais faire, mais en fait, bien souvent, ça ne se passait pas bien, hein. J'étais dans une inquiétude de ne pas savoir si c'est le bon moment de faire ça ou de faire autre chose, ou de comment faire pour soigner une bête qui est un peu malade. Non, au début, quand on faisait les foins et tout ça, je me disais, j'allais faucher plus tard que les autres. Puis après, il pleuvait. Bon, j'avais beau avoir du foin bien mûr comme on recommande en bio, mais après, il était mouillé et puis il n'était plus très de première qualité. Et tu es là et puis tu vis avec une femme qui est inquiète et qui dit, mais comment tu n'y vas pas? Regarde, tous les autres vont faucher. Donc, tu dois te battre avec ta femme. Hein? Puis si après, c'est les autres qui avaient raison, après tu as des reproches. Et des tas de trucs comme ça. Tu vois que c'est beau, hein, d'être libre. Jolie mère, c'était tous les jours de fête. Il était mis.
On était donc toujours avec la santé de la terre et l'agriculture à cheval. Et donc, ces agriculteurs ici qui racontent quand ils sont installés. Et puis, voilà, il fallait réinventer des manières de travailler. Et puis, qui ne faisaient pas forcément comme les autres. Et où c'est des fois un peu compliqué. J'imagine, par exemple, les champignons, ça devait être beaucoup d'essais-erreurs au début quand vous êtes lancé.
Tout à fait. Bah, à la base, ça n'avait pas du tout l'intention d'être professionnel. De base, c'était juste un petit projet où on souhaitait faire pousser des champignons avec Quentin, mon collègue. Et uniquement comme ça, par curiosité. Et finalement, ce qui nous a intrigué, avant même les champignons, c'était vraiment le fait que ça paraissait pas si compliqué, mais les connaissances, le savoir, même sur Internet, c'était assez diffus, dur à regrouper. Et qu'ensuite, le matériel de culture complètement inexistant, il fallait passer par un laboratoire qui prenait des frais d'envoi, donc il fallait commander des grosses quantités, donc beaucoup trop qu'on en avait besoin. Ouais. Et donc finalement, naturellement, on a commencé à proposer aux gens de les cultiver avec nous pour répartir les coûts d'achat finalement du matériel. Et donc on a commencé à aller dans les cafés citoyens, à proposer aux écoles aussi des activités et dans les cahotes à projets aussi à Louvain-la-Neuve. Et ça marchait super bien. Et plus nous, on en apprenait parce que finalement, il fallait former les gens. Donc à former, on apprend. Et plus nous on en apprenait, plus ça nous passionnait, plus finalement l'idée de faire une production est venue naturellement en place. Et donc voilà.
Moi j'ai une question justement. Mm-hmm. Pourquoi les champignons ?
Pourquoi les champignons ? Bah ouais, ça c'est en fait de temps en temps je pense pas que c'est nous qui on n'a pas choisi en fait. C'est les champignons qui nous ont attrapés. Mais pourquoi les champignons ? Bah en fait. C'est fondamental, les champignons, et on n'en parle pas du tout, mais c'est vrai. C'est un peu comme si on me disait pourquoi les plantes ou pourquoi les animaux. Et en fait, c'est littéralement le cas. C'est un règne à part entière, la même diversité. C'est tout aussi important dans un sol. Ça peut aller jusqu'à 60% de la masse d'un sol, du vivant dans un sol, qui est du champignon, du mycélium. C'est ce qui permet la revalorisation de tout en fait, c'est-à-dire dans la nature, le bois, s'il n'y avait pas de champignons, on aurait des mètres et des mètres de feuilles en fait. C'est vraiment ce qui permet de prendre ce que le vivant a construit et de le détruire et de le re-rendre dans la nature. Bon, pour des structures qui sont particulièrement coriaces. Et par exemple, du coup, pourquoi c'est important aussi, c'est ça permet très aussi de nettoyer des sols. Par exemple, des sols pollués aux hydrocarbures. Les champignons, comme le pleurote d'ailleurs, lui peut digérer des hydrocarbures. C'est une source de solution d'avenir qui est énorme. Ça, je pourrais parler de plein de projets et des choses, mais...
D'accord.
Voilà pourquoi.
Super. Et alors, les compagnons de la Terre... Comment est-ce que vous avez, donc vous réfléchissez plus donc du manger vers l'assiette, enfin de la production jusqu'à l'assiette, qu'est-ce que vous avez développé, où se situent vos matières de réflexion à ce niveau-là, et vos actions ?
En fait c'est très simple, hein, c'est juste faire du maraîchage au départ, pour nourrir un maximum de Liégeois. Ce qu'on veut c'est que les Liégeois puissent avoir accès à une alimentation saine, à des prix démocratiques, tout en faisant en sorte que la production ne soit pas trop compliquée. Et donc, c'est l'esprit du collectif, vraiment. En gros, pour moi, je dis toujours, le maraîchage, c'est un métier de chien. Mais vraiment, c'est très, très contraignant. Donc, un nombre d'heures...
Comme on l'entendait, l'agriculturiste qui racontait justement...
Exactement. Voilà.
Mais on a à manger.
Mais on a très peu de revenus. Donc, on ne peut pas voyager, on doit rester sur son champ. Là, c'est en pleine période de récolte. Donc c'est vraiment des heures et des heures. Alors que le principe des compagnons, c'est qu'on est suffisamment nombreux pour que si le maraîcher veut partir en vacances, eh ben, il n'est pas en vacances, il y aura quelqu'un pour le remplacer. Donc voilà, c'est ce projet qui fait qu'effectivement, on n'est pas tout seul face à son champ. Et ça, c'est assez essentiel.
Oui, ça me fait penser à des remarques qu'on a régulièrement par rapport au mouvement, au collectif de citoyens, où on se demande si effectivement on ne toucherait pas que des bobos avertis et assez privilégiés par rapport à toutes ces considérations citoyennes. Et on nous demande, mais où est le public précarisé là dans vos initiatives ? Et alors clairement, il y a des initiatives qui touchent plus que d'autres des publics précarisés. Les donneries en font partie, les Reaper Café, ça peut aussi, les restes souvent.
Collectif.
Voilà.
Clairement.
Les collectifs, clairement. Oui. Mais alors, vient les groupes d'achat alimentaires, et là on se dit, ah ouais, là c'est vrai que c'est vachement des bobos. Ah, elle dit, bah non. Non, non, le précarisé, c'est le maraîcher. C'est lui. On en touche un, c'est sûr. Et clairement, quand on voit les conditions de vie dans lesquelles ils peuvent être, avec des salaires à minima, et voilà, avec les aléas en plus d'une mauvaise récolte ou d'un mauvais stockage, c'est vraiment... voilà.
Mais après, je pense que ça peut toucher aussi toutes les populations. Par exemple, j'ai un exemple de groupe en Gazap ici, à Bruxelles, à Schaerbeek, qui est dans un quartier quand même assez populaire. Voilà, donc, donc ils ont un garage où ils stockent les paniers, où toutes les deux semaines ils vont chercher leurs paniers. Et il y a des gens qui vivent, en fait, juste à côté, dans les appartements, etc. Et une personne qui faisait la permanence, qui me racontait qu'en fait, il y a des gens qui sont passés dans la rue, qui ont vu les légumes, ils ont fait « Ah, mais c'est des beaux légumes, quoi. C'est comme, c'est comme à l'époque au pays, quoi. Est-ce qu'on peut aussi... » Et donc, il y a des habitants du quartier qui ne sont pas du tout... qu'on pourrait pas du tout classer dans la case bobo, qui se posent des questions... mais qui finalement ont fait le pas et sont rentrés dans le collectif.
Alors pour moi c'est possible effectivement. Maintenant il y a aussi une question de prix juste à payer et qui est fort faussée par les centrales d'achat et la pression que peuvent faire les grandes surfaces sur le prix des légumes entre autres. Et donc effectivement on a un meilleur légume dans un groupe d'achat que dans un supermarché, mais quand on paye sa carotte 1,50€ le kilo au lieu de 75 cents, pour des familles qui sont vraiment dans une situation de survie, ça peut poser question. Oui, par contre, il y a encore beaucoup...
Le but des groupes d'achat, c'est pas justement de pouvoir proposer ce genre de produit, mais à un
moins
prix...
cher qu'un bio de supermarché, mais ça reste quand même souvent un prix, en tout cas pour que ce soit... Et encore, la plupart des maraîchers s'alignent de toute façon sur les prix du marché, donc un prix qui est en deçà de ce qui pourrait être nécessaire à leur survie. Maintenant, il y a probablement encore beaucoup de choses à faire en termes de logistique et d'accompagnement des maraîchers. J'accompagne moi-même un maraîcher dans son travail et je sais, parce que c'est la loi du marché, qu'on laisse sur le champ des produits qui ne sont pas ramassés parce qu'ils ne seront pas vendus. Parce qu'au marché, ça ne passera pas, parce qu'un fenouil qui est monté, ça ne passera pas, même s'il a encore du goût, parce qu'un chou-fleur qui est un peu explosé, ça ne passera pas, même pour des groupes d'achat alimentaires. Or, il y a encore beaucoup de gaspillage, il y a encore beaucoup de récoltes qui ne sont pas prises. Et donc, là, les brigades paysannes peuvent intervenir, mais aussi une réflexion sur, pour aller récolter, pour accepter peut-être des légumes qui ont une gueule cassée, pour, voilà, il y a pas mal de choses à faire.
Ils ressemblent à quoi les légumes que vous récupérez au collectif?
Quand on récupérait au niveau des abattoirs chaque dimanche, donc on devait faire un tri certainement, donc si on récupère une tonne et demie, je dirais que... une tonne est bon à prendre, le reste c'est pas vraiment consommable parce que c'est vraiment absolument détruit, etc. Bon, voilà. Mais maintenant, actuellement, on a le privilège de collaborer avec des supermarchés bio, donc on fait les récup trois par semaine, et donc c'est aussi une quantité qui est énorme, et donc on fait profiter aussi des personnes qui sont dans le besoin, donc c'est aussi donc des personnes, ça reste accessible pour des personnes, le bio aussi, à travers la récup justement. Voilà.
Et c'était accueilli comment les maraîchers au marché des abattoirs, qui est pas forcément, pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, c'est quand même des gros marchés de légumes d'Espagne, etc., de grosses consommations. Comment est-ce qu'ils vous percevaient au début et maintenant?
Non, c'était un bon rapport depuis le début, parce qu'on a expliqué un peu la démarche, et donc ils étaient aussi gagnants dans l'affaire, parce que pour se débarrasser de ces déchets, il faut payer, ça va, c'est incinéré, au fait, donc c'est payant, et donc c'était un rapport win-win avec les marchands, et aussi solidaire, donc ce qui était bien, et on n'était pas dans une démarche aussi de demander, parce qu'on venait aussi avec du café, de la soupe, on faisait de la soupe avec les choses qu'on a récupérées chez eux, pour voilà, les remercier, etc. Donc c'était un bon rapport avec les maraîchers.
Super. Alors normalement on avait une chronique qui devait arriver, mais je ne vois pas d'elle arriver. On va écouter un peu de musique et puis on peut continuer dans notre table ronde. La danse de l'avocat. Avocat dance, c'est Sophie Sizzling.